C'est la volonté générale. Et ça, il le dit pas dans le contrat social, mais dans l'économie politique. Alors, la religion va permettre donc de conformer, si on peut dire, la volonté particulière à la volonté générale pour que l'État ne fasse qu'un seul corps et pour qu'il ne dépérisse pas. Donc, la religion, c'est un moyen pour permettre l'unité. Alors, nous allons faire une étude quand même plus concrète. Alors, dans le chapitre 8 du livre 4, on peut discerner trois parties. Tout d'abord, il y a une étude historique qui permet de conclure que la religion sert de base à l'État et d'autre part que le christianisme est nuisible à l'État. Alors, on distingue aussi une seconde partie où il fait une analyse plus formelle des divers types de religions en attaquant aussi violemment le christianisme. Et puis enfin, il va donner les dogmes de la religion civile. Alors, un petit historique donc pour Rousseau de la religion. On peut discerner deux grandes périodes, avant Jésus-Christ et après Jésus-Christ. Alors, avant Jésus-Christ, les gouvernements étaient théocratiques et finalement avec les Romains qui ont étendu leur empire, en étendant leur empire, ils ont aussi étendu leur dieu et donc le paganisme ne formait plus qu'une religion. Alors, ce qui caractérise donc l'époque avant Jésus-Christ, c'est ainsi que c'est l'unité du système politique et du système théologique. Ils ne font qu'un. Mais alors, lorsque le Christ va arriver, alors tout va être bouleversé, parce qu'il va y avoir une séparation du royaume temporel avec le royaume spirituel. Alors les païens, alors Rousseau dit que les païens ont eu peur que les chrétiens usurpent le pouvoir temporel. Et il dit que c'est ce qui a expliqué les persécutions. Alors, qu'est-ce que nous dit Rousseau? Alors, ce que les païens avaient craint est arrivé. Alors, tout a changé de face, les humbles chrétiens ont changé de langage, et bientôt on a vu ce prétendu royaume de l'autre monde devenir sous un chef visible le plus violent despotisme dans celui-ci. Alors, ce chef visible. Bon, c'est clair. Alors donc de là, il y a deux puissances qui va impliquer un conflit perpétuel dans les États chrétiens. Est-ce qu'il va falloir obéir donc au maître, au souverain, ou est-ce qu'il va falloir obéir au prêtre? Alors Rousseau conclut cette étude historique en disant simplement: jamais État ne fut fondé que la religion ne lui servit de base, et la loi chrétienne au fond plus nuisible qu'utile à la forte constitution de l'État. Je crois que chez Rousseau aussi, il parle souvent de force, il parle beaucoup de force. On a vu pour le contrat social, la force, on unit ses forces pour pouvoir résister, pour pouvoir se conserver. Il y a une notion très grande de force. Alors donc après, Rousseau donne une explication beaucoup plus formelle. Alors, il faut noter que dans ce chapitre sur la religion, Rousseau ne considère la religion que par rapport à la société. Et c'est en fonction donc de ce fait que Rousseau va juger si une religion est bonne ou mauvaise. Il distingue deux sortes de religions et puis une troisième sorte de religion qu'il dit évidemment mauvaise. On va tout de suite commencer par la troisième sorte de religion, parce qu'il est expédié rapidement. Alors, il dit que c'est la religion du prêtre. Alors, il y a une troisième sorte de religion plus bizarre, qui donnant aux hommes deux législations, deux chefs, deux patries, les soumet à des devoirs contradictoires et les empêche de pouvoir être à la fois dévots et citoyens. Telle est la religion des lamas, telle est celle des Japonais, tel est le christianisme romain. On peut appeler celle-ci la religion du prêtre. Il en résulte une sorte de droit, du droit mixte et insociable qui n'a point de nom. Alors, tout simplement, la religion catholique est contraire à l'esprit social, parce que pour Rousseau, l'unité sociale est sacrée. Or, le catholicisme va diviser la société. Donc, il expédie l'Église romaine, car elle va s'arroger un pouvoir temporel. Le deuxième genre de religion, c'est la religion du citoyen. Alors, cette religion va donner aux citoyens ses dieux, ses patrons, ses dogmes, ses cultes, et tout cela sera donné par la loi. Et pour Rousseau, c'est la religion des premiers peuples. Et c'est ce qu'il appelle le droit divin civil ou le droit divin positif. Alors, quel est le côté positif de cette religion? C'est que cette religion unit le culte divin et l'amour des lois. Donc, on voit toujours cette unité chez Rousseau. Il veut une unité entre le culte divin, entre la religion et puis le point de vue politique. Alors, quel est l'objet de l'adoration des citoyens? Ben, c'est la patrie. Et servir les dieux, c'est servir l'État. Le pontife, c'est le prince, et les prêtres, ce sont les magistrats. Cependant, il y a un côté négatif. Rousseau dit qu'elle est fondée sur l'erreur et le mensonge. Et donc, ce culte de la divinité peut devenir vain. Et puis aussi, elle peut rendre les peuples intolérants vis-à-vis des autres religions. C'est-à-dire que le peuple risque de refuser certaines autres religions. Mais nous reviendrons sur l'intolérance à la fin de ce chapitre. Et puis enfin, alors, la première religion. Donc là, on régresse. Alors la première religion, c'est la religion de l'homme, qui est un culte purement intérieur du Dieu suprême. C'est ce qu'il appelle le droit divin naturel. Alors quel est le côté positif? Alors il dit que cette religion, c'est le christianisme. Alors, reste donc la religion de l'homme ou le christianisme, non pas celui d'aujourd'hui, mais celui de l'Évangile, qui en est tout à fait différent. Par cette religion sainte, sublime, véritable, les hommes, enfants du même Dieu, se reconnaissent tous pour frères, et la société qui les unit ne se dissout pas même à la mort. Donc il trouve quelque chose de très beau dans l'évangile, quoi. Alors, je vais vous lire aussi autre chose. C'est dans une lettre à Beaumont. Monseigneur, je suis chrétien et sincèrement chrétien selon la doctrine de l'évangile. Bon, il ne faut pas oublier qu'il est calviniste, hein. Je suis chrétien non comme un disciple des prêtres, mais comme un disciple de Jésus-Christ. Mon maître a peu subtilisé sur le dogme et beaucoup insisté sur les devoirs. Il prescrivait moins d'articles de foi que de bonnes œuvres. Il n'ordonnait de croire que ce qui était nécessaire pour être bon, quand il résumait la loi et les prophètes, c'était bien plus dans les actes de vertu que dans les formules de croyance, et il m'a dit par lui-même et par ses apôtres que celui qui aime son frère a accompli la loi. D'autre part aussi, Rousseau aussi a composé des prières aussi. Si vous voulez, je pourrais vous en lire là, à la fin. Alors, cette religion, c'est ce qu'il appelle la religion naturelle. C'est celle de l'homme, de la nature. C'est celle de l'homme vivant. Alors oui, alors cependant, quel est le côté négatif? Ben, le côté négatif, c'est que le christianisme, l'évangile doit être débarrassé de tous ces miracles. Oui, je soutiendrai toujours l'appui qu'on veut donner à la croyance en est le plus grand obstacle. Ôtez les miracles de l'évangile et toute la terre est aux pieds de Jésus-Christ. Donc l'évangile c'est très bien, mais il ne faudrait pas qu'il y ait des miracles. Ça le gêne. Alors il y a d'autres côtés négatifs. Alors surtout c'est qu'elle n'a aucun rapport avec le corps politique. Elle détache le citoyen de l'État. Et si on peut dire, elle désacralise la société politique. Il y a quelque chose dans la société politique et le christianisme lui enlève ce caractère. Et à partir de là, ben, il y a une grande attaque du christianisme. Alors, une société de chrétiens ne serait plus une société d'hommes, ce serait une société tellement parfaite que la cause de sa destruction se trouverait dans sa perfection. Il n'y aurait plus à lutter, et donc la société irait à sa perte. Le très grand reproche, c'est que c'est une religion spirituelle, mais là il va un peu trop loin, puisqu'il dit qu'elle ne s'occupe absolument pas des choses temporelles, ne s'occupe absolument pas donc des affaires politiques, et l'essentiel, qu'est-ce que c'est pour le chrétien? C'est d'aller au paradis, quoi. Et donc, le chrétien est prêt à tout, il est prêt à être esclave, parce que il est prêt à être esclave d'un despote, que ça lui permet de mieux, d'atteindre plus rapidement le paradis, quoi. Alors. Il dit que république chrétienne, ce sont deux mots qui s'excluent l'un l'autre. Mais je me trompe en disant une république chrétienne. Chacun de ces deux mots exclut l'autre. Le christianisme ne prêche que servitude et dépendance. Son esprit est trop favorable à la tyrannie pour qu'elle n'en profite pas toujours. Les vrais chrétiens sont faits pour être esclaves. Ils le savent et ne s'en émeuvent guère. Cette courte vie a trop peu de prix à leurs yeux. C'est bien vrai qu'on est serviteurs et esclaves. Alors, une autre critique aussi qui n'est pas dans le contrat social, c'est que le christianisme, plus spécialement le catholicisme, englobe tout le genre humain. Or, pour Rousseau, il ne peut pas y avoir une société politique au niveau du genre humain, puisque, surtout au point. Rousseau voit plutôt la société politique au niveau de la cité. Et donc, comme le christianisme dépasse la cité, en aimant l'étranger, ben, il ne l'accepte pas tellement, puisque le citoyen doit haïr l'étranger, il doit le mépriser. Alors donc, la grosse attaque du christianisme, c'est qu'il divise l'État. il porte atteinte à l'unité de l'État. Enfin, nous allons passer à la troisième et dernière partie donc de chapitre 8, qui est où Rousseau nous donne les dogmes de la religion. Alors, le but de la religion, comme je crois que j'ai déjà dit, le but de la religion, c'est de faire aimer aux citoyens ses devoirs envers le corps politique, aimer ses lois, pour que la volonté particulière soit conforme à la volonté générale. Mais aussi, la religion, chez lui, ne sera pas seulement un moyen, elle n'est pas, disons, purement morale. Parce que les dogmes d'une religion morale ne vont intéresser ni l'État ni ses membres, car il faut que la religion civile soit pour l'utilité de l'État. C'est pour cela que le souverain va pouvoir tolérer toutes les religions, car le souverain n'a pas à s'occuper du salut personnel, n'a pas à s'occuper des affaires de l'autre monde, mais simplement de la politique sur terre. Le souverain désire simplement que les sujets soient de bons citoyens. Alors, Rousseau va donner les dogmes de la religion civile. Je voulais dire quoi. Alors, les dogmes de la religion civile doivent être simples, en petit nombre, énoncés avec précision, sans explication ni commentaire. L'existence de la divinité puissante, intelligente, bienfaisante, prévoyante et pourvoyante, la vie à venir, le bonheur des justes, le châtiment des méchants, la sainteté du contrat social et des lois. Voilà les dogmes positifs. Après, je vous dirai, quant aux dogmes négatifs, je les borne un seul, c'est l'intolérance. Elle rentre dans les cultes que nous avons exclus. Or, dans ces dogmes de la religion civile, on voit que Rousseau il unit très profondément quoi, les exigences politiques à la foi. Ces dogmes sont le noyau commun et minimal de toute religion civile en vue de l'utilité publique et du bien du corps politique. Or, Rousseau appelle ces dogmes plutôt sentiments de sociabilité sans lesquels on ne peut être bon citoyen. Celui qui ne croit pas à ces dogmes est considéré comme insociable, donc l'incroyant est condamné, non pas parce qu'il est impie, parce qu'il ne croit pas à ses dogmes, mais parce qu'il est insociable. Celui qui ne croit pas à ses dogmes, est insociable. Or, c'est là où arrive le problème de l'intolérance. Rousseau n'accepte pas ceux qui sont insociables. Donc, les religions telles que le christianisme ou le catholicisme qui divisent la société, ces religions, il faut les exterminer pour l'unité et la paix de l'État. Alors Rousseau dit qu'il n'y a qu'une intolérance, c'est l'intolérance civile. C'est l'intolérance civile qu'il unit, qu'il confond avec l'intolérance théologique. Parce qu'à son époque, quoi, il y avait des divisions au niveau de l'intolérance civile et théologique, certains opposaient, mais lui, il unit, en disant que finalement, il n'y a plus qu'une intolérance civile. C'est-à-dire qu'on va pouvoir accepter qu'on va pouvoir accepter toutes les religions. On va pouvoir accepter tous les dogmes des religions, mais pourvu que ces dogmes ne nuisent pas à l'unité du corps politique et ne nuisent pas au devoir du citoyen. C'est-à-dire tout ce qui s'oppose au devoir du citoyen, c'est pas bon, quoi. Il ne tolère pas ces dogmes. Il ne tolère pas cette religion, comme le catholicisme. On peut dire que c'est la sociabilité, c'est le sentiment de sociabilité qui va faire le critère de la religion. Je ne vais pas lire plus. Mais... Alors, en concluant simplement, alors si le contrat social est le fondement, c'est le véritable fondement de toute société et l'unique fondement de la société et qui permet de sauver l'homme, la religion civile, si on peut dire, semble être l'achèvement de la cité en permettant cette unité du corps social. En même temps, la religion civile permet l'union de la politique à la religion. Et c'est pour ça qu'il y a quelque chose de sacré dans la politique de Rousseau, dans la société de Rousseau. D'ailleurs, au début du contrat social, il dit que la société, c'est un droit sacré. Il dit que le droit social est un droit sacré. L'ordre social est un droit sacré. Aussi, il me semble aussi qu'il doit rejeter toute forme d'obéissance, toute forme d'autorité. Parce que là, on le voit lorsqu'il dit que personne n'obéit à personne, à part le contrat social. Tout le monde obéit à tout le monde. Et donc, personne n'obéit à personne, quoi. Donc il refuse certainement toute autorité, il n'accepte simplement l'autorité paternelle. Alors, on peut dire aussi que Rousseau certainement avait un culte intérieur aussi, en rejetant toute autorité, l'autorité du prêtre, l'autorité de l'Église. Et ben voilà. Si vous voulez, je peux vous lire une partie de... La date de parution du contrat social. Si tu peux pas amener l'autre. Parce que... Oui, alors. 1062. Oui. Et vous savez que. Oui, j'ai pas dit. Aussi, j'ai pas dit, mais c'est au 18e, Rousseau. Il est né à Genève en 1712 et est mort en 1778. Voilà. Autrement.
Comment se fait connaître la volonté générale? Est-ce que c'est par des élections?
Alors ça, oui, ça c'est ça, j'en ai pas du tout parlé, je l'ai laissé de côté. La volonté générale, bon, ça se voit surtout au niveau de la loi, quoi. Alors la loi, il en parle dans les suffrages. Alors Alors, ça dépend. ça dépend parce que il dit que des fois, le suffrage qui suffit d'une voix excédentaire pour que la loi puisse passer, ou alors des fois il faudra qu'il y ait un très grand nombre de voix pour que la loi puisse passer si c'est des décisions très importantes à prendre, ou alors s'il y a des décisions à prendre très rapidement, eh ben la loi, il suffira d'un très petit nombre de voix pour que la loi passe. Alors la volonté générale, ben, je crois que c'est la majorité, quoi. Oui. Je crois que ça doit être ça.
lien pour vous entre la politique et l'éducation?
Alors, oui, Rousseau, je n'avais pas parlé aussi, mais Rousseau voit, je crois, unit très fortement le point de vue politique et le point de vue éducatif. Alors ça se voit lorsqu'il a écrit l'Émile, il l'a écrit en même temps que le contrat social lorsqu'il était à Montmorency. Alors je crois qu'il y a un grand lien. Alors, pour voir ce lien, l'éducation est nécessaire pour l'enfant, des parents pour l'enfant. Donc c'est là où il y a une autorité naturelle. Mais dès que l'enfant, c'est au point de vue de la conservation, là, dès que l'enfant est capable de se conserver par lui-même et de vivre tout seul, eh ben, il est libre. L'enfant est libre. Donc il est soumis, disons, à ses parents encore jeunes, mais après il est tout de suite libre. Alors là, je sais pas, j'ai pas vu quel est le rôle du gouvernement, par rapport à l'éducation, quoi. Ben finalement, le gouvernement, lui, ne s'occupe que de l'exécution des lois. Donc ça ne doit pas être par rapport au gouvernement. Mais les lois, comme elles viennent de la volonté générale, ça doit être par rapport à la volonté générale. Donc les lois vont venir du peuple, quoi. Je sais pas s'il y a des lois qui vont parler de l'éducation.
Il faut quand même bien éveiller l'enfant à cette religion civile.
Oui. Oui, ça c'est
Il faut
sûr.
bien, il faut bien, il faut,
Ben,
du
c'est
coup, il
pour
faut
ça qu'il
bien
faut.
l'éduquer au niveau de l'école.
C'est pour ça que. Ben oui. Mais si, si. Alors, au point de vue de la religion civile, c'est le peuple même, c'est le souverain, c'est-à-dire le peuple, quoi, qui va donner les lois. Et ces lois vont donner, comme je l'ai dit là, le culte, les dieux, pour éduquer le peuple. C'est le peuple lui-même, quoi, qui s'éduque. C'est le peuple lui-même qui s'éduque.
Je veux dire à propos de ta famille, son éducation à nous,
Ah ben, je crois qu'il a lu, beaucoup de Plutarque. Alors dans sa jeunesse, je crois qu'il a lu un peu Aristote, je crois. Ben, pas beaucoup, mais je crois qu'il a lu, il a dû, il a dû lire Platon. Il a lu, je crois, des auteurs grecs. Il a dû lire Tite Live beaucoup pour s'inspirer de la politique. Il parle beaucoup aussi de l'histoire romaine. Il a beaucoup étudié l'histoire romaine. Il prend comme modèle la République romaine. Aussi, on dit aussi qu'il a lu dans sa jeunesse beaucoup Plutarque. Vraiment, il a eu une éducation, quoi. Il a été beaucoup éduqué par des femmes, je crois. Non. Comment? Mais ça, je sais pas si quelqu'un a le livre là. Oui, ça c'est sûr qu'il y a beaucoup l'idée de force. Non, on ne veut pas dire que c'est pas philosophique. Ça, c'est très difficile à dire. Parce que d'une nature humaine, ça, il faut voir surtout, je crois, dans l'origine des, dans le, dans le discours sur l'origine des fondements d'inégalité. Or, l'homme, au début dans le premier état de nature, il ne sent pas qu'il y ait vraiment une nature humaine. Il y a. Si, quand même, parce que l'homme vit comme un animal. Mais il y a quand même quelque chose de virtuel en lui, quoi. Il y a quand même quelque chose qui fait qu'il est un homme, quand même, qui le distingue des autres animaux. Alors, est-ce qu'il y a une véritable nature humaine? Je crois qu'il faut distinguer. Là, il faut distinguer. Il y a une progression lente qui passe de l'état de nature à l'état, après à un état second un second état de nature, puis après à un état de société politique. Il y a un progrès lent. Parce que Rousseau dit que le premier état de nature où l'homme vivait seul a duré, on ne sait pas, a pu durer très longtemps, mais il s'appuie aussi sur la Bible en disant qu'il n'a pas existé cet état de nature. Oui, c'est un mythe. Il n'a pas existé. Et ça, il s'appuie simplement sur la Bible. Au point de vue il dit philosophique, on ne veut pas l'affirmer. Et alors, ensuite, peu à peu, l'homme doit développer donc sa raison, doit se développer, doit développer ses sensations et a des contacts avec les hommes. Et peu à peu, donc, il va y avoir la naissance de sociétés, d'abord barbares. Et il y a Marc, c'est pas tout à fait des sociétés. C'est pas tout à fait des sociétés. C'est plutôt individu contre individu. Je crois que c'est plutôt ça au début.
Là, on retrouve l'état de nature de l'homme.
Oui, voilà, à ce niveau-là. Voilà. Alors, ce qu'on peut dire, pour voir, si on peut dire que chez Hobbes, c'est beaucoup plus simple, il y a simplement, on passe de la guerre à l'état social, alors que chez Rousseau, avant l'état de guerre, il y a d'abord un état de paix. Et on peut dire qu'on rejoint Hobbes au niveau de cet état de guerre. Et après, Hobbes ne voit que le premier moment. Alors ça, c'est quoi? Il faudrait faire.
Parce que, alors, chez Rousseau, l'état de nature, on va les diviser en deux. Alors d'abord, si on peut dire la paix, la liberté, la tranquillité. Et après, avec les sociétés barbares, c'est la guerre. Donc la guerre source de.
La société source de guerre. Tandis que chez Hobbes,
on arrive tout simplement, l'état de nature correspond tout de suite à la guerre. Puis, à partir de là, chez Rousseau, il y a des premiers hommes qui vont vouloir réagir contre cet état de guerre, ils vont essayer de former une société politique. Alors voilà, je crois que chez Hobbes, c'est à ce niveau-là, la société politique avec le souverain unique
qui fonde, donc qui va sauver l'homme et en rendant l'homme esclave. Alors Rousseau s'oppose à cette conception. Donc pour Hobbes, ça s'arrête là, la société politique, voilà, sauve l'homme. Alors que non, pour Rousseau, cette société politique ne va pas sauver l'homme, puisque peu à peu elle va le tyranniser, ceux qui ont le pouvoir vont tyranniser le peuple, et finalement, on va retourner dans un état de guerre, il va y avoir un cercle. Entre ces deux états, quoi. Mais on ne retombe pas vraiment à l'état de nature.
Mais ce sera quand même un état.
Et alors les hommes vont continuellement vouloir s'en sortir, mais ils n'y arriveront jamais.
On retombera toujours dans la guerre. Alors Rousseau, ensuite, lui, il donne la solution. La solution, tout simplement, c'est le contrat social. Le contrat social, je ne sais pas, j'espère que c'est ça. Mais...
Je ne crois pas que la société politique soit identique à la société. Pour Hobbes, ce sont les hommes qui, ensemble, vont faire un contrat, vont lui donner à quelqu'un qui va les.
Bah, chez...
Alors que là, c'est eux qui se prennent en main et qui vont dominer les autres pour s'en sortir eux-mêmes.
Là où tu parles, là, ouais,
chez Rousseau.
Chez Rousseau, là, ce sont des hommes qui vont réfléchir, qui vont dire, comme on ne peut plus résister, donc on va, je crois, s'unir. Au début, je crois qu'ils s'unissent. Mais il y a certainement, il y en a certains qui vont dominer les autres obligatoirement. Au début, ça sera très... Bon, il y aura une unité au début très, très intime, mais après, peu à peu, il y en a qui vont sortir et qui vont dominer. Tandis que chez Hobbes, là, je crois que c'est tout de suite le... Je sais pas, là, j'ai pas bien vu. Mais... Voilà, on aboutit à un esclavage, ce qui correspondrait quand même à cet état de Hobbes, quoi, comme nous en a parlé l'autre fois le frère. Où il n'y a plus de liberté pour le peuple.
Pour lui, le contrat social doit apporter la liberté.
Oui. Oui. Ah oui, il y a aussi une différence aussi chez Hobbes, c'est que finalement, le peuple n'a plus aucune liberté.
C'est la question de la liberté, je crois, oui. Qui joue le plus entre les deux.
Il n'y a plus de liberté chez Hobbes.
Au fond, il n'y a pas de. Au sens rigoureux, il n'y a pas de nature, je crois pas. Il n'y a pas de finalité.
Non, c'est au point de vue végétatif, quoi. Au point de vue sans. Oui. Conservation. Non, non. Non, au point de vue, je crois pas que Dieu soit à la fin, non. Je crois pas. Je sais pas. Ça paraît pas. Il y a la religion, mais.
Oui,
c'est un moyen surtout. Oui, c'est surtout pour l'unité. C'est pour l'unité afin que.
L'unité, elle est dans la liberté.
Oui.
Je ne crois pas qu'on puisse dire que l'unité, c'est la plus grosse chance d'être présent. C'est que l'unité, elle est immanente dans la liberté. Elle est dans les relations constantes des uns avec les autres dans la liberté. Je ne crois pas qu'il y ait une vision de l'unité comme Platon, qui est quelque chose de transcendant, qui dépasse.
Ah, non, non, non.
C'est l'unité, c'est cette chose, il me semble, tout ce qui rompt l'unité sociale ne vaut rien. Hein. Tout ce qui rompt. Ne vaut rien, c'est beaucoup plus. Tout ce qui rompt l'unité sociale ne vaut rien. L'unité sociale, elle est comment? Elle est un tissu de relations libres. C'est un tissu de relations libres. C'est pas autre chose que ça. C'est pas une unité en dehors. Je crois que c'est vraiment un tissu de relations libres. C'est ça.
Est-ce qu'il n'y a pas déjà la société sans classe de Marx, la société communiste? C'est quand même une vision qui est très.
Oui, je ne vais pas parler
extrêmement moderne.
C'est un libéralisme. C'est le libéralisme. Et ce qu'il faut, c'est une bonne et des bonnes pour que ce libéralisme puisse exister. Il me semble qu'il n'y a pas autre chose. Et la religion est un peu garante de ça. Et comme Dieu est garant de la vérité pour Descartes, il y a un peu ça. La religion serait un peu gardienne de ça.
Oui, c'est ça.
Cette unité et de cette liberté absolue.
Quand c'est dit au départ que tous les hommes sont bons.
Ouais, au début, il n'y a pas de bonté, il n'y a ni bien ni mal. Parce que l'homme vit au purement simplement animal. Alors il n'y a ni bonté, ni méchanceté, on ne peut pas dire que l'homme est bon.
Il y a une bonté, c'est pas
exact. Oui, il y a quoi? Il y a une bonté, mais.
Il y a une privation du mal.
Oui,
alors,
voilà.
La vision, le mal, privation du bien, c'est une bonté. Et absence de mal, je crois.
Oui.
La bonté dans l'état de nature.
Mais je ne sais pas si on peut parler vraiment de bonté. L'homme n'est ni méchant, mais.
Est-ce que si on peut dire aussi aux personnes qui sont en force, d'après la violence qu'on a vu, c'est les directs de pas. Tout de suite, on voit l'anxiété et l'anxiété.
quand il s'isole, et en fait, ce premier état de nature, ça correspondait à quelque chose de profond, mais en lui, quoi. Et finalement, est-ce qu'on ne peut pas retrouver la différence entre les deux, elle se situe au niveau de lui, dans sa vision par rapport à la société à laquelle il est confronté. Mais c'est pas...
Il me semble que c'est Rêverie les a écrits, et puis... Oui, tout à fait à la fin, oui, c'est pas au début. Je sais pas, mais il écrit surtout les rêveries, puis ses promenades à la fin, quoi. C'est vraiment à la fin de sa vie, les dernières années.
Comment les femmes auxquelles arrivent à s'inspirer de Rousseau ?
Comment ? Ah oui, il y a ça. Ça, je n'ai pas tellement regardé, mais il y a certainement d'abord, il y a deux points, l'égalité, la liberté, l'égalité déjà, certainement que ça a dû influencer beaucoup. Ah. Oui, je crois que ça a beaucoup. Je crois que ça a influencé beaucoup la révolution, non ? Je crois que c'est ça. Surtout, puis aujourd'hui. Quoi. Mais ça, je connais pas tellement. Le problème.
Tu peux l'ouvrir de ses prières ?
Ah. Ça.
Mais un peu frappant aussi, est-ce qu'il n'y a pas une espèce de transposition de toute l'économie biblique ?
Ah oui.
Parce qu'il y a un état de justice
originaire.
Il y a un péché au niveau de l'humanité qui est fait, je crois, d'après le discours, qui est l'invention de la propriété, mais dans la possession. Donc le premier qui enclôt un terrain.
C'est en même temps la possession et le droit du plus fort. C'est les deux, hein. C'est la lutte entre les deux.
Et puis en fin de compte, une rédemption.
Oui. La rédemption, c'est après, quoi.
C'est
ça. C'est
une nouvelle
alliance. La vraie vertu, c'est serviteur des hommes. Serviteur des hommes sans étant esclave des hommes.
Mais c'est-à-dire au lieu aussi de se donner à Dieu, et ben il se donne aux hommes, à l'humanité.
Il donne aux hommes un espèce de service parallèlement à la
vie religieuse. Oui, c'est vrai, il se donne.
Il y a une différence
entre les deux. Nous, on est là pour Dieu, on est. Oui, parce que en fait, je crois qu'il y a un anonymat complet. Je crois que dans la famille, après, ça doit être un peu peut-être comme chez Platon où il y a eu des enfants, après c'est terminé, ils appartiennent à tout le monde.
Il n'y a pas de personne, c'est pas fidèle. Il n'y a pas de personne, c'est pas fidèle.
Non, oui.
On a absolument l'impression d'un
anonymat. Oui, c'est-à-dire, on juxtapose des individus.
Au fond, c'est plus du tout la question de communauté, c'est très contre social, ça part de l'autre social, on sait plus ce que c'est que social. À la différence avec communauté. Pour une communauté, il y a un bien commun, il y a une espèce de fidélité, il me semble que le mot social, contre social, montre bien cela, et que c'est beaucoup plus au niveau des relations. Les différents individus dans leur liberté, dans leur interrelation, que va mettre ce point de vue du social. Ce serait intéressant à voir, parce que c'est quand même la charnière de quelque chose.
Ce qui est le plus du contrat social, c'est que chacun de nous met en commun sa personne.
Exactement.
C'est la question totale.
C'est la division.
dictature du prolétariat, on a aboli l'État. Il n'y a plus personne, puisqu'on en arrive à abolir l'État. Alors que là, on nous dit, il y a quand même référence en dernier moment à une religion civile. Donc, il n'arrive pas quand même à cette espèce
de religion civile. Elle est immanente. C'est pour ça que je dis, elle est plutôt gardienne des relations bilatérales. Plutôt que l'inverse. Ce n'est pas les individus qui sont ordonnés à Dieu, mais c'est plutôt cette religion civile qui va être gardienne, en définitive, fondamentalement, de ces relations bilatérales. Il me semble, vous voyez, alors un petit peu, comme pour Platon, comme pour Descartes, qui découvre Dieu, qui veut être garant de vérité, il y a un peu du côté pratique ici, quelque chose d'analogue. On ne voit plus du tout la transcendance de Dieu, on ne voit plus Dieu du tout comme une personne.